Et alors, nous sommes en studio avec Tania Faustino da Costa, candidate à la maîtrise en sciences politiques, brésilienne d'origine et donc aussi d'études politiques. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
Alors, on t'a invité à l'origine pour nous parler du changement de gouvernement au Brésil, donc des élections qui ont amené à l'élection de Dilma Rousseff, qui est aussi la femme de l'ex-président Lula. Donc, il y a comme une situation...
Ben en fait, même s'il a des blagues et on dit parfois que c'est comme si c'était sa femme, ils sont pas ils sont pas mariés.
D'accord.
Elle a été la chef de cabinet de son gouvernement.
Ok.
Dans son deuxième mandat, donc elle était la femme forte de son gouvernement, si on peut dire comme ça.
C'est quand même intéressant que ça ait été traité comme ça dans certains médias, parce que ça prouve quand même qu'on approprie des femmes politiques.
C'est tout à fait. C'est pas très inapproprié parce que c'est Lula qui l'a choisi en fait. Ça a été questionné le choix de Dilma comme candidate au poste de présidente parce que ça a été un choix personnel du président en fait.
Et donc aussi, on va en profiter pour te parler de l'actualité qui s'est présentée à nous dans la semaine après t'avoir invité, c'est-à-dire les violences telles qu'elles ont été appelées à Rio, qui sont entre autres manifestées par l'arrivée de tanks dans des favelas. Mais on va te laisser commencer sur le changement de gouvernement pour ensuite s'en aller vers l'actualité.
Oui, c'est malheureux événements qui ont eu lieu à Rio de Janeiro, mais en fait, comme tu dis, je voulais rappeler un peu, faire un peu un topo de la situation politique au Brésil à ces moments. Donc, en octobre, Dilma Rousseff, la candidate du Parti des Travailleurs et donc la dauphine du président sortant Lula, elle a récolté 56% des voix au deuxième tour des élections contre presque 44% des voix du deuxième candidat, que c'était José Serra, du parti de l'opposition officielle au Parti des Travailleurs, que c'est le PSDB, le Parti de la Social-Démocratie au Brésil. Donc, c'est le candidat perdant de ces élections. Et c'est pas seulement la présidence que le Parti des Travailleurs a remportée. On se rappelle que Lula a été pendant 8 ans au pouvoir après avoir essayé les élections, d'emporter les élections à plusieurs reprises, à 3 reprises. En 2002, ces immigrants pauvres du nord-est, de la région la plus pauvre du pays, arrivent à la présidence du pays. C'était un moment où il y avait beaucoup d'espoir pour les changements sociaux au Brésil. Ça, c'était en 2002, donc il a resté pendant 8 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il finit son gouvernement couronné de succès. Il a une approbation de la population d'environ 80%. C'est quand même pas négligeable, c'est un chiffre admirable. Et il n'a pas seulement emporté la présidence, mais il a aussi emporté la majorité au Congrès, au Sénat et à la Chambre des députés. Ce sont les partis de la coalition qui ont appuyé la candidature de Dilma qui ont emporté le plus grand nombre de sièges. Donc, le gouvernement de Dilma, ça va être un gouvernement, on dit, plus facile pour plus aisément faire passer les réformes parce que... dans la Chambre, elle va avoir une majorité. Et on lit dans les médias partout, pas seulement au Brésil, mais au monde, au niveau international, Lula, il est lauréat, il a été lauréat, c'est comme ça qu'on dit, il a reçu des prix pour sa diplomatie, sa capacité diplomatique, pour avoir distribué la richesse, pour avoir créé 14 millions d'emplois pendant ses 8 ans de gouvernement, pour avoir réduit le chômage à 6%, et si on pense qu'on est en temps de crise, avoir 6% de chômage, ça serait admirable. Je vais revenir là-dessus. La croissance économique au Brésil aussi, on a 7,5% de prévu pour cette année. Il affirme avoir distribué la richesse à travers son programme phare, que c'est le Bolsa Família. J'imagine que vous avez déjà entendu parler probablement, mais c'est un programme d'allocation mensuelle où on donne... environ 50 dollars par mois par famille. Ça dépend du nombre d'enfants. Il faut garder les enfants à l'école et vacciner. Mais on peut s'imaginer quand même comment ça doit être vivre avec 6 peu de sous par mois. Lula aussi dit qu'il est allé vers les classes pauvres parce qu'il a créé une nouvelle classe moyenne au Brésil. Il affirme avoir sorti 28 millions de personnes de la pauvreté et avoir enlevé à la classe moyenne 36 millions de personnes. Mais quand on regarde ces chiffres d'un peu plus près, on voit que pour être considéré classe moyenne au Brésil, ça suffit d'avoir des revenus annuels d'au moins 9 000 dollars canadiens par année. Donc, si tu as 9 000 dollars, si tu fais 9 000 dollars canadiens par année, ben, tu es à la classe moyenne brésilienne. Bravo. Et pour ce qui est du salaire minimum, qui l'affirme avoir augmenté plus que jamais dans l'histoire du pays, celui-là, il est aujourd'hui d'environ 4 000 dollars par année. C'est le salaire minimum au Brésil. Donc, il faut mettre en perspective ces réalisations-là. Et tandis que les gains pour les classes pauvres au pays ont été très, très minimes, ils deviennent encore plus minimes quand on les compare avec les gains des classes plus puissantes au pays. Par exemple, la Banque nationale de développement économique, le BNDES, qui est financée par le Trésor public, elle a reçu une quantité énorme d'argent, surtout dernièrement avec la crise, avec l'excuse que, oui, les compagnies ont besoin d'argent pour créer plus de richesses, créer plus d'emplois. C'est un discours qu'on connaît bien. Et environ 57% de cette valeur-là, elle a été destinée seulement à 12 grandes compagnies brésiliennes. Donc, c'est très, très concentré. On voit que la concentration du capital augmente au Brésil et ça va au-delà du territoire brésilien parce qu'on parle ici des multinationales, des compagnies comme Vale do Rio Doce, qui est venue au Canada pour acheter Inco. Donc, on connaît les pratiques un peu qu'on pourrait mettre en question. On pourrait en parler à un autre moment. Ou Brazil Foods, JBS, qui c'est une compagnie la plus grande productrice de viande au monde. D'ailleurs, le secteur agricole au Brésil, il a explosé sous le gouvernement de Lula. C'est un secteur qui reçoit beaucoup d'argent, tandis que la réforme agraire n'a pas eu lieu. Et la concentration de terres continue, je dirais catastrophique, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est un pays avec la plus grosse concentration de terres au monde, si on considère le pays avec un PIB de taille, de poids. Lula affirme aussi avoir finir avec la dette publique, la dette internationale. On pense aujourd'hui à Irlande qui doit se plier aux exigences du Fonds monétaire international. Mais Lula a payé la dette brésilienne au FMI. Pas seulement ça, mais il a aussi prêté de l'argent au FMI, comme si le Brésil aurait passé à la condition d'une puissance économique. Mais c'est dont on ne parle pas. C'est que le Brésil a toujours une dette externe envers d'autres organismes de 240 milliards de dollars. Et plus pire que ça, encore très préoccupant, c'est que 36% du budget fédéral brésilien à chaque année va pour payer des intérêts de la dette publique. Le Brésil est endetté et cet argent va pour les banques, pour les marchés financiers, tandis qu'on destine seulement 3% du budget fédéral aux services d'éducation, qui on sait malheureusement ont pour la plupart une piètre qualité dans mon pays d'origine. Et aussi, 5% du budget fédéral vont à la santé. Et les gens au Brésil, la classe moyenne, la classe riche, ont accès à un service privé parce qu'ils ont un emploi. Donc, la compagnie paye une assurance ou sinon, ils payent de leur propre poche. Mais la grande, l'écrasante majorité de la population doit aller vers les services publics. Et souvent, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments. Les gens meurent dans les couloirs. C'est des histoires d'horreur. Et je mets l'accent là-dessus parce qu'on sait ici qu'il y a beaucoup de discussions sur un système à deux vitesses. Ben là, c'est le système à deux vitesses et c'est comme ça que se passe. Donc, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, on commence à mettre en question un peu les réalisations que j'avais citées au départ. Mais on peut ajouter encore le fait que Lula dit... quand j'ai dit Lula, vous comprenez, on parle du gouvernement du Parti des travailleurs. Hein. Ce n'est pas une personne, mais sa personnalité est tellement marquante qui plus que jamais... c'est pour ça que je dis souvent Lula. Mais pour ce qui est de l'éducation, Lula a créé un programme qui s'appelle ProUni. Et ce programme donne accès aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer les universités, de fréquenter les universités. Donc, ça donne des bourses. Sauf que ce n'est pas vraiment des bourses. Il y a une partie des bourses, mais une partie des prêts. Et vous vous en doutez, la partie des prêts, elle est quand même très importante. Parfois, c'est la totalité de l'argent qui est offert à l'étudiant. Et c'est un modèle qui, en fin de compte... Mais avant, il faut que j'explique aussi une chose. On a un modèle à deux vitesses en éducation au Brésil aussi. C'est pas comme si, c'est un modèle différent. Donc, on a les universités qui sont privées. Il faut payer les frais de scolarité. Et on a les universités publiques, normalement destinées aux classes moyennes, aux classes plus aisées. Il n'y a pas de frais de scolarité à payer là-dessus. Ce sont les meilleures universités, ce sont les universités publiques, sauf que l'accès est restreint. Donc, à la base, au primaire, au secondaire, les classes plus aisées envoient leurs enfants à l'école privée. Ils ont les moyens de payer. Ce sont les meilleures écoles à la base. Mais quand ils arrivent à l'université, ils arrivent à rentrer à l'université publique parce qu'ils ont eu un parcours, ils ont eu une bonne éducation. Et quand je parle du ProUni, je parle au niveau post-secondaire, donc professionnalisant l'université. Et c'est là qu'il a créé ces modèles où on garantit les revenus des universités privées qui sont contentes parce qu'elles reçoivent les frais de scolarité. Elles n'ont pas... à être inquiète que les étudiants vont pas payer parce que les gouvernements payent directement, tandis que les étudiants sont endettés. Souvent, et vous pouvez imaginer c'est quoi que ça donne.
Et peut-être sur la question du gouvernement, une petite question rapide qui brûle les lèvres. Comment Lula a pu continuer à avoir une réputation de gauche malgré tout ça? Puis peut-être aussi comment est-ce qu'on en vient? C'est quoi le lien entre ces politiques-là et la situation qu'on a vue dans les derniers jours?
C'est difficile à dire comment, avec tout ça, il continue à avoir une réputation de gauche. Mais mon avis, c'est que il est plus difficile de critiquer quelqu'un qui se positionne comme étant à gauche, comme Lula, d'une façon tellement puissante, parce que son parcours de vie, il a immigré du nord-est du pays quand il était petit, il a été un travailleur enfant, il n'a pas été éduqué, il était très pauvre, une famille avec 7 enfants, si je ne me trompe pas, son père a laissé sa maison, et c'est sa mère qui lui a enlevé, donc après il a été ouvrier, un dirigeant syndicaliste. Donc, on peut pas, c'est difficile d'arriver à croire que quelqu'un avec un tel parcours ne penserait pas à des politiques en faveur des gens qui ont été comme lui. Quoi. Donc, c'est plus difficile encore de faire des critiques, à débriser cette image-là. Et ce qu'il a mis en place favorise les classes plus puissantes, comme j'ai essayé de montrer ici. Donc, eux, ils ne seront pas les premiers à pointer les doigts et dire, mais vous voyez ce que vous faites, là, c'est pas vraiment... On pourrait se demander aussi pourquoi Lula n'a pas réussi à mettre... en place les politiques de gauche, mais il me semble qu'il, lui, il a fait ce qu'il voulait. Si on lui entend parler, il a jamais été socialiste, Lula. Il a toujours été quelqu'un qui croit au système capitaliste, qui croit aux réformes, donc je pense qu'il croit à tout ce qu'il fait, du moins quand on lui entend parler. Et il passe l'idée qu'il est très fier et très content de ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'il croit sincèrement qu'il est en train de changer les pays, distribuer le revenu.
Puis, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en conclusion, si tu pouvais nous faire une petite explication de l'analyse qu'on peut faire des événements de la semaine passée dans les favelas.
À Rio, ce qui se passe maintenant, c'est que l'armée a occupé le complexe d'Alemão, qui est un ensemble de quelques favelas. Comme vous savez, les favelas, c'est les endroits très misérables à Rio de Janeiro. Et ça a été télévisionné, ça a été mis en direct dans tous les médias brésiliens. Les gens ont pu voir la police avec l'armée, avec les tanks, occuper les favelas. Il y a eu des gens innocents qui ont été tués, entre eux une fille de 14 ans qui était chez elle et elle était morte. Et on met la question comme si c'était un combat entre les troupes du bien, les forces de l'ordre qui sont là pour pacifier les favelas et les bandits. Mais je pense que la réalité est beaucoup plus que nous on sait que ça, le mauvais avec les bons côtés. Et je pourrais amener plusieurs arguments pour dire que ce n'est pas une pacification, malheureusement. J'aurais aimé ça. Rio, c'est une vie merveilleuse, vraiment belle. Et j'aurais pouvoir aller à Rio et apprendre que ça a été pacifié. Mais il y a une chose. D'abord, il y a les milices. Les milices, c'est un groupe d'ex-policiers, souvent, ou des policiers, qui occupent maintenant plusieurs favelas. Les favelas qui sont occupés par les milices, et qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un peu comme la mafia. Donc, ils vont offrir des services à la population, comme les gaz pour cuisiner, la télé à câble, ils ont des systèmes parallèles de télé à câble, les transports, l'électricité, plusieurs services, parce que le gouvernement n'est pas là, il n'y a pas ces services. Donc, ils offrent à la population à un prix qu'ils veulent. Ou sinon, ils chargent des commerçants pour pouvoir fonctionner, ils chargent en montant. C'est comme on peut l'aider des mafias. Et l'armée est pas du tout, elle a pas touché le favela où sont les milices, malheureusement. Elle a touché les UPP, les unités de police pacificatrices qui sont en train d'être mises en place. Elles sont dans les monts, dans les favelas, où sont les trafiquants des drogues. Mais on voit déjà qui ça tombait, même avant qu'on mette en place ces UPP, ces unités pacificatrices. Et à Rio, on a plus de 1000 favelas de toutes sortes de tailles, plus petites, plus grandes, et tout ça. On a Rocinha, que c'est une de plus grandes, où la UPP n'est pas arrivée encore, mais on a seulement 13 UPP, 13 unités de ce genre installées, donc dans presque 1000 favelas. Donc une critique facile qu'on peut faire tout de suite, que ça saute aux yeux, c'est une préparation pour les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde qui s'en vient, la Coupe du Monde 2014, les Jeux Olympiques en 2016. Donc on est en train de... je ne vais pas dire nettoyer, mais on est en train de préparer la ville d'une façon... triste, très triste.
Et merci beaucoup, Tania, d'avoir été avec nous.
Et merci, ça m'a fait vraiment plaisir.
Alors, c'était Tania Faustino da Costa, candidate à la maîtrise en sciences politiques sur un brin d'actualité du Brésil. On